de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Tout d'abord, je vais vous présenter les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Jakarta organise le festival de Chinatown, l'histoire et la culture chinoise ». Le Conseil de coordination des investissements travaille dur pour rétablir la confiance des investisseurs japonais. L'Indonésie a initié une résolution des Nations Unies sur l'économie créative. L'Indonésie installe des inscriptions à la frontière de Raja Ampat et de l'État de Palau. La Papouasie exporte immédiatement 70 tonnes de riz vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sulawesi du Nord veut exporter du ciment vers l'Asie. Et voici le journal complet. Le Bureau du tourisme et de la culture de la province de Jakarta organisera le festival de Chinatown Batavia 2019 sous le thème « La valeur des traditions historiques chinoises » présenté par l'artiste de Betawi Atawi Kisam. Cette activité a lieu le samedi 16 novembre dans le quartier de la vieille ville Plaza Patahila. La culture chinoise est présentée sous la forme d'un drame colossal racontant la lutte des Chinois pour aider à se battre pour l'indépendance de l'Indonésie. Le secrétaire au tourisme et à la culture de la province de Jakarta, Asiantoro, a déclaré vendredi dernier espérer que Chinatown Batavia 2019 pourra attirer environ 200 touristes étrangers. Pour la promotion de cette activité, nous utilisons jakarta.go.id, département du tourisme. C'est la préservation culturelle. Dans ce cas, la concentration est l'histoire pour introduire ou conserver l'histoire existante. L'effet domino, par nos médias sociaux, le nombre de touristes augmentera. Notre objectif en 2019 est de 3 millions de touristes. Les dernières données sont environ plus de 2 millions de touristes. Selon Asiantoro, pour les activités de décembre 2019, il y aurait des événements tels que le cosplay et Jakipa au Monument National ou Monas. Jusqu'à présent, les visites de touristes étrangers sont dominées par les touristes chinois et japonais. Le Conseil de coordination des investissements, ou abrégé en BKPM, s'efforce de rétablir la confiance des investisseurs japonais afin d'accroître leurs investissements en Indonésie. Un membre du comité des investissements de la division de la communication et de l'information, Rizal Kalvari Marimbo, a déclaré ceci dans une déclaration écrite reçue à Jakarta vendredi dernier. Pour accélérer le rétablissement de la confiance des investisseurs en Indonésie, les investisseurs japonais espèrent que le président du Conseil de coordination des investissements se rendra bientôt au Japon. Les investisseurs sont impatients d'entendre par eux-mêmes les percées du nouveau chef BKPM. L'Indonésie a initié une résolution ou une décision des Nations Unies sur l'économie créative lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été adoptée par consensus le 14 novembre 2019 à New York. La résolution est intitulée « L'année internationale de l'économie créative » pour le développement durable 2021 souligne le rôle crucial du secteur de l'économie créative dans la promotion du développement durable. L'ambassadeur Diane Triansyah Jani, représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies à New York, a souligné que l'Indonésie a pris diverses mesures pour intégrer l'économie créative à l'Organisation des Nations Unies compte tenu de sa contribution au développement durable dans de nombreux pays. Pour la première fois, l'Indonésie a initié une décision aux Nations Unies sous la forme d'une résolution de l'économie créative qui n'avait encore été prise par aucun autre pays auparavant. L'Union européenne et la plupart des délégués ont hautement apprécié l'initiative de l'Indonésie. Le gouvernement indonésien installera des inscriptions sur les îles Ayau, dans la région de Raja Ampat, en province de Papouasie-Occidentale, qui est l'île la plus éloignée de la frontière indonésienne avec le pays voisin, la République des Palau. Comme cité par Antara, le chef de l'Agence de l'Unité Nationale et de la Politique de la Papouasie-Occidentale, Baisara Wael Awaisai, a déclaré que le gouvernement de la province de Papouasie-Occidentale avait coordonné avec le gouvernement de la région de Raja Ampat pour la mise en place des inscriptions au début du mois de décembre. En plus des inscriptions soumises par le ministère de l'Intérieur en 2008, les inscriptions du gouvernement provincial de Papouasie-Occidentale et de la région de Raja Ampat seront installées dans les îles Ayau comme un signe que ces îles sont un territoire indonésien qui continue d'être maintenu et préservé. Le gouvernement provincial de Papouasie fera immédiatement la première exportation de 70 tonnes de riz vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Samuel Siriwa, responsable des services de l'agriculture, des cultures vivrières et de l'horticulture dans la province de Papouasie, a déclaré mercredi dernier à Timika que les premières exportations de riz vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée seraient effectuées à la fin du mois de novembre. Le riz à exporter est le résultat de la production des agriculteurs de la région de Maroké sous le nom de riz Animha Papua. Comme cité par Antara, Samuel a expliqué que le gouvernement provincial de Papouasie avait tenu une réunion avec la quarantaine agricole de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Jayapura il y a quelques jours avant de préparer le premier export de riz vers ce pays. La quarantaine agricole de Papouasie-Nouvelle-Guinée a également effectué une surveillance sur le terrain à Maroké, qui est un centre de la production de riz en Papouasie. Le Bureau de l'agriculture de Papouasie espère que l'exportation des riz papou de la région de Maroké poursuivra. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord encourage les exportations de produits de ciment vers un certain nombre de pays d'Asie en 2020. Comme cité par Antara, Darwin Muksin, responsable du Bureau du commerce extérieur du service de l'industrie et du commerce de Sulawesi, a déclaré récemment qui le faisait en raison du potentiel d'exportation de ciment en Asie est assez grand et doit être bien utilisé. Darwin a déclaré qu'auparavant, Sulawesi du Nord avait déjà exporté du ciment vers la République populaire de Chine, la Malaisie et l'Australie de janvier à juin. Les exportations de ciment vers les trois pays se sont élevées à 284,27 millions de kilogrammes et ont capable de générer des recettes en devises de 10,30 millions de dollars américains. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Magelang, Java Central. Le responsable de l'équipe de restauration du temple Selo Griyo à Junawan, jeudi à Magelang, a déclaré que le Centre de préservation de la culture de Java Central avait achevé la restauration du temple Selo Griyo dans le village Candisari à Windusari en région Magelang au début de novembre 2019. Junawan a expliqué que l'équipe n'avait rencontré aucun obstacle important dans la mise en œuvre de restauration. Mais en termes d'archéologie, ce temple est vraiment unique. Sa forme est potelée et son architecte est étroit ou complet. Junawan a admis se rendre à l'emplacement du temple, c'est assez loin, à pied, et si utilisé en véhicule, est assez dangereux, car la route est étroite. Ensuite, le concept doit être considéré. Ensuite, l'info de Pekanbaru, Riau. Un certain nombre de touristes étrangers du Brésil et d'Australie se sont rendus dans la péninsule Kampar, dans la région reculée Pelalawan, en province Riau, afin de profiter du Bekudo Bono ou de surfer sur la plus haute vague du fleuve appelé Bono. Andy Yuliandri, responsable du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports de la région Pelalawan, a déclaré jeudi que le phénomène Bono était présenté sous la forme d'un festival qui se déroulait du 11 au 14 novembre. À cette date, la vague Bono, qui est la destination locale de la vague dans la rivière Kampar, est à son apogée. Le gouvernement local collabore avec la communauté du sous-district Teluk Meranti, lieu de la vague Bono, pour emballer le rare moment des événements avec un nouveau concept, à savoir l'organisation d'un camping et d'un festival de musique jazz. Le festival de musique intitulé le Festival Bono Jazz regroupe la communauté musicale Bono Jazz qui réunit des musiciens de la Malaisie et de Singapour. La dernière info est venue de Karangasem, Bali. La région de Karangasem, Igusti Ayu Mas Sumatri, a exprimé sa gratitude pour la construction du musée Sanghyang de Darigiri Amerta dans le village Geriana Kauh Adat à Karangasem, à Bali. Après l'inauguration du musée dans le village autochtone Geriana Kauh, Karangasem, à Bali, mardi 13 novembre, Igusti Ayu Mas Sumatri a déclaré que son parti avait un programme visant à réaliser la création de 1000 musées à Karangasem. Et le musée Sanghyang de Darigiri Amerta est le quatrième musée installé à Karangasem. Selon la région, la danse Sanghyang de Dari n'existant pas dans d'autres villages, elle est donc une sorte de caractéristique ou d'icône du village qui la distingue des autres villages à Karangasem. Selon lui, le gouvernement est obligé de garder la danse de l'extinction et ses origines sont également comprises par la communauté locale. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 16 novembre. Le 16 novembre 1904, John Fleming invente un tube à vide. John Ambrose Fleming est un ingénieur électricien et physicien britannique. Fleming a été conférencier dans plusieurs universités, notamment l'Université Cambridge, l'Université Nottingham et l'Université College London. En 1892, Fleming présente un important document sur la théorie des transformateurs électriques à l'Institution des ingénieurs électriciens, l'Institut de génie électrique, à Londres. En 1904, Fleming a inventé et breveté le modificateur de courant de vide à double tube qu'il a appelé la soupape d'oscillation. Cette découverte est souvent qualifiée d'origine de l'électronique car c'est le premier tube à vide. Fleming apporte également des contributions dans les domaines de la photométrie, de la télégraphie sans fil radio. Il a reçu le titre Sir en 1929. Le Le 16 novembre 2002, le SRAS a été enregistré pour la première fois à Guangdong, en Chine. Le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, est un type de pneumonie. Le SRAS est apparu pour la première fois le 16 novembre 2002 en province Guangdong, en Chine. Environ 10% des victimes du SRAS meurent. Après que la Chine eut mis fin à l'épidémie de SRAS au niveau interne et international, le SRAS s'est répandu très rapidement et a atteint le Vietnam à la fin de février 2003, puis dans d'autres pays grâce au tourisme international. Le dernier cas de cette épidémie s'est produit en juin 2003. Au cours de l'épidémie, 8000 autres cas ont été enregistrés, faisant 775 morts. Le 16 novembre 2006, Milton Friedman, économiste américain, récipiendaire du prix Nobel d'économie de 1976, est décédé. Milton Friedman est un économiste et intellectuel américain, décédé à San Francisco, Californie, le 16 novembre 2006, des suites d'une insuffisance cardiaque. En 1976, il reçoit le prix Nobel pour ses réalisations dans les domaines de l'analyse de la consommation, de la théorie monétaire et de l'histoire, ainsi que pour la démonstration de la complexité de la politique de stabilisation. En tant qu'économiste légendaire qui se bat pour la liberté individuelle, il a influencé les politiques économiques de trois présidents des États-Unis, à savoir Richard Nixon, Gerald Ford et Ronald Reagan, et de la première ministre britannique, Margaret Thatcher. Dans ses livres, dans la rubrique Newsweek magazine et dans une émission de télévision publique, il se bat pour la liberté individuelle en économie et en politique. Les responsables américains ont salué sa contribution qui a permis des millions de personnes de comprendre les avantages économiques d'un marché libre concurrentiel. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Tanya-tanya mengapa, oh mengapa ku sendiri. Katakanlah sampai kapan lagi harus ku menanti segalanya yang pasti. Katakanlah sampai kapankah luka di hati ini
simpan di hati. Aku mengerti bila diriku kini ada yang mengganti. Mengapa engkau harus bersembunyi? Tiada, oh tiada.
Voilà la chanson de Chris Kaihato, dont le titre est « Tiada guna lagi » qui signifie « Ce n'est plus utile ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie, et en petit titre, Aceh propose un investissement dans le tourisme halal à ISEF 2019. Le gouvernement provincial d'Aceh propose 6 investissements en tourisme halal aux investisseurs mondiaux dans le cadre du forum des dirigeants exécutifs qui se tiendra au centre des congrès de Jakarta mercredi 13 novembre. Les 6 offres sont développement de 4 grappes touristiques basées sur l'espace, optimisant le rôle de l'agence de gestion des zones de libre-échange et des ports en tant qu'accélérateur du tourisme à Sabang. Il envisage également de créer un service hospitalier en tant qu'hôpital islamique pour touristes, un accès financier aux micro, petites et moyennes industries afin d'optimiser la valeur financière, de concevoir une certification halal et de développer un parc industriel interdépendant et halal. Le deuxième assistant pour l'économie et le développement du secrétariat régional d'Aceh, Teuku Ahmad Dadek, représentant le gouverneur Aceh, a également expliqué que la feuille de route d'Aceh commençait en développement économique fondé sur la charia, notamment en présentant les réglementations régionales Kanun ou la réglementation régionale d'Aceh et les institutions financières islamiques. Teuku Ahmad Dadek a déclaré à cette occasion « Aceh dispose déjà d'un parapluie réglementaire et à présent, l'institution financière est venue une institution financière islamique. De plus, il y a aussi une transition du conventionnel au islamique. » Selon lui, au plus tard en 2022, toutes les sociétés bancaires ou les institutions financières opérant à Aceh doivent changer leur statut opérationnel de système conventionnel à la charia. Le règlement s'applique également aux sociétés non bancaires telles que les coopératives et autres formes d'activités liées au secteur financier. Le Forum des dirigeants exécutifs fait partie des nombreux événements du Festival économique de la Sharia en Indonésie, ISEF 2019, qui se déroule du 12 au 17 novembre 2019 au Centre de Congrès de Jakarta. Cet événement a réuni des gouverneurs élus et des partenaires internationaux potentiels pour développer une économie régionale fondée sur une économie islamique. Parmi les partenaires qui sont présents figurent le Centre de développement de l'économie islamique de Dubaï, l'Association des institutions nationales de financement du développement, l'Agence japonaise de coopération internationale, la Banque islamique de développement en Tunisie, la Banque mondiale en Tunisie et CFO Club en Tunisie. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terlanjur ku mencintaimu, detik demi detik ku berhayal kau kembali di pelukku, tapi semua itu hanya mimpiku. Tu hadirkan dirimu yang dulu bermesra. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah akan berakhir perih, namun ku harus kuat menghadapinya. Ku harus hampir saja ku mengakhiri. Tuk hentikan adik, ku lupakan segala yang menekan jiwa. Bersyukur Tuhan masih menolongku. Merasuk ke jantung hati, sadarkan diriku. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah akan berakhir perih, namun ku harus kuat menghadapinya. Ku harus ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah akan berakhir perih, namun ku harus kuat menghadapinya. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah kan berakhir perih, namun ku harus kuat menghadapinya. Ku harus.
C'était la deuxième chanson intitulée Ku harus, qui signifie je dois, chantée par Dudi Oris. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, allez visiter Tulungagung en province Javaès pour profiter de la beauté de la colline Cemenung. Javaès possède de nombreux lieux touristiques uniques qui peuvent constituer un choix de destination en vacances. L'un d'entre eux est la colline Cemenung, situé dans le village Tenggong, district Rejotangan, Tulungagung, Javaès. L'unicité et l'attractivité de ce lieu touristique résident dans l'existence de quatre grands bâtiments avec une cheminée au sommet. La construction de la cheminée à la colline Cemenung est due au fait qu'il existait jadis une zone d'extraction de calcaire, de roches, de manganèse et d'usines de calcaire. À première vue, la forme du bâtiment existant est similaire à celle d'une grande roue aux Pays-Bas. Autrefois, la région Tulungagung était le lieu d'exploitation de mines de calcaire. Le calcaire doit être brûlé comme processus de traitement pour pouvoir être utilisé dans l'industrie. La tour située sur la colline Cemenung est l'usine de fabrication de fours à calcaire appartenant aux hommes d'affaires chinois. Maintenant, bien qu'elle ne soit pas restaurée et que personne ne les gère, les tours ont toujours l'air robustes. À première vue, l'architecture du bâtiment ressemble à une tour de moulin à vent aux Pays-Bas. Par conséquent, de nombreux touristes qui viennent, en plus de visiter l'ancienne usine qui ressemble à un moulin à vent aux Pays-Bas, sont également nombreux à vouloir prendre des photos avec l'arrière-plan de ce bâtiment unique. La vue depuis les hauteurs donne toujours des sensations et une beauté extraordinaire. Et l'air sur la colline Cemenung est assez froid. Vraiment, le bon endroit pour oublier les routines quotidiennes. En plus de profiter du bâtiment unique, dans cette zone touristique, il existe également des installations pour le stationnement des véhicules, des salles de prière, des toilettes et des restaurants. Pour visiter des sites touristiques, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou les transports publics. Si vous utilisez des transports publics, tels que des autobus ou d'autres moyens de transport public, Vous pouvez vous arrêter au terminal d'autobus et continuer avec d'autres véhicules publics, tels que des taxis moto pour la colline Cimenung. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Masih terbayang dalam anganku yang terindah tentang kita.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Eka Deli, dont le titre est Cinta Ini, ou en français, C'est Amour. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur en formant sur l'Université Gadjah Mada qui élève Jammu en tant que patrimoine culturel national. Le Jammu est l'un des patrimoines culturels indonésiens. L'utilisation de Jammu est enracinée dans la communauté depuis longtemps et héréditaire. Cependant, la culture de la consommation de jamu, soit plante médicinale, a pratiquement disparu, en particulier chez les femmes du millénaire. Les jeunes n'aiment pas boire le jamu, qui abaisse des plantes pour un certain nombre de raisons. Constatant ce fait, la faculté de pharmacie de l'Université Gadjah Mada a été intriguée par la restauration de la tendance à la consommation de jamu en tant que patrimoine culturel national par le biais du Festival international de jamu. Cette activité a eu lieu du 14 au 17 novembre 2019 à l'hôtel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. L'activité ne comprend pas uniquement une variété de produits transformés pour les MPME d'Indonésie. Cependant, il s'agit d'un événement visant à créer un écosystème susceptible d'apporter des avantages pour la survie des MPME de jamu, soit médicaments à base de plantes à l'avenir. Le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université Gadjah Mada, professeur Agung Endro Nugroho, a expliqué que l'Université Gadjah Mada avait pour objectif de ramener le jamu à la surface ainsi que le palais, faisant écho aux valeurs associées au jamu dans la communauté. Il a exprimé le grand espoir que les plantes médicinales pourraient s'accrocher au mode de vie de certaines personnes, y compris la région spéciale de Yogyakarta. Même faire de remèdes traditionnels jamu une fierté pour le peuple indonésien. En plus d'améliorer la position de jamu pour devenir plus familière dans la communauté, Agung a déclaré que le festival était également un moyen de présenter jamu aux yeux du monde. Il espère que le remède traditionnel jamu deviendra une icône de la fierté indonésienne. Le coordinateur du Festival international de jamu, Dr. Ronnie Martin, a expliqué que ce festival propose une série d'événements allant du salon de jamu, des arts de la scène Mbok Jamu, du Réok au séminaire. En outre, il y a eu également un talk show sur jamu avec 14 pays qui partagent par la suite des histoires sur le jamu dans leur pays respectifs. Ronnie a déclaré que dès la mise en place du festival, on espérait que jamu pourrait être un produit intéressant à consommer aujourd'hui. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Berbicara jujur apa adanya. Semoga apa yang ku impi untuk jadi kenyataan dan bersatu di dalam kasih yang suci. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau pun begitu juga.
jumpa. Diriku mulai suka dirimu yang mempesona. Begitu anggunnya membuat jiwaku ada resah bergelora yang mengawali cinta di hati. Oh, ku coba untuk bicara apa yang ku rasa melalui perhatian diriku kepadamu. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau pun begitu juga, menerima kenyataan seperti yang ku rasakan, dan kita telah saling jatuh cinta. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau begitu juga menerima kenyataan seperti yang ku rasakan, dan kita tak saling jatuh cinta. Oh yeah. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau pun begitu juga menerima kenyataan cinta.
Voilà la chanson de Didi Bofa, dont le titre est Kesan Pertama, qui signifie la première impression. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition présente des informations sur la chanson de Keroncong intitulée Melati Pesanku, une chanson originale de Keroncong créée par Gito Martoyo. Cette chanson raconte d'une femme qui a inauguré le départ d'un héros pour la guerre en saupoudrant de jasmin blanc. Cette chanson montre également l'esprit de soutien donné aux combattants. Pour le bien de la nation et de l'État, le cœur est prêt à laisser partir l'amoureux pour la bataille. Voilà l'information de la chanson dont le titre est Melati Pesanku. Une chanson pendant une lutte qui inspire enthousiasme et amour pour la patrie. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson intitulée Melati Pesanku, chantée par Kristiwi.
Thank you.
Of Indonesia.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.